Bien vouloir ouvrir la parole de Dieu dans un premier temps dans l'évangile de Jean au chapitre 20, à partir du verset 16. Nous allons faire plusieurs lectures assez courtes. Jean chapitre 20, verset 18. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna. Et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans le livre des Actes des Apôtres, juste un peu plus loin, au chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Une troisième et dernière lecture dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19 jusqu'au verset 31. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, pardon, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Seigneur, encore une fois, nous nous tournons vers toi pour te demander de nous éclairer et de nous montrer au travers de la méditation de ta parole, par ton esprit, quelle est la voie que nous devons suivre et comment aussi nous devons nous soumettre à ta volonté. Nous reconnaissons les uns et les autres que ta volonté, Seigneur, elle est bonne, agréable et parfaite. Et c'est la raison pour laquelle, loin de nous éloigner de ce que toi-même tu nous révèles au travers de ta parole, plus que jamais, nous voulons nous attacher à elle et nous te demandons, règne en nous par l'action puissante de ton esprit. Oh, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. J'étais fort réjoui ce matin parce que la lecture de la parole de Dieu qui a été faite juste avant que nous commencions ce culte et à la fin de ce moment de prière portait sur un passage qui est situé dans l'Épître aux Hébreux. Et juste au moment de prendre le repas du Seigneur, notre frère qui a fait aussi la lecture a cité un texte qui est également dans l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur m'a poussé particulièrement ce matin à vous parler de ce grand privilège que nous avons les uns et les autres de pouvoir entrer librement et avec un cœur qui a été purifié, avec notre joie profonde en nous de nous approcher et de vivre dans la présence même de Dieu. J'aimerais vous rappeler quelque chose qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui est également mentionné dans cet épître que nous avons lu ce matin. Il y avait autrefois comme point de rencontre entre Dieu et les hommes, ce que l'on appelle le tabernacle, ou alors du temps de Jésus, il y avait aussi le temple. Et dans le temple, il y avait trois parties. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de ces choses. La première partie, qui se trouvait à l'extérieur, est appelée le parvis. Et puis, après avoir traversé un premier rideau, on pouvait entrer dans ce que l'on appelle le lieu saint. Là, entraient aussi les sacrificateurs pour offrir à Dieu des parfums, pour le servir comme cela leur avait été demandé, au travers des enseignements reçus par le moyen du livre du Lévitique. Et puis, il y avait la troisième partie. Cette partie où personne n'avait le droit d'entrer, si ce n'est le souverain sacrificateur, une fois seulement par an. Et il avait la possibilité ainsi de s'approcher de ce que la Bible appelle l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, ce coffret dont le couvercle s'appelle le propitiatoire, là où le sang de la victime qui avait été offerte sur l'autel des holocaustes, cette fois dans le parvis, pouvait être répandu pour que Dieu agrée ce sacrifice et accorde le pardon au peuple. Il n'y a pas bien longtemps, Nous avons pu partager ensemble que le vêtement du sacrificateur avait cette caractéristique d'avoir sur sa poitrine ce que l'on appelle un pectoral, avec les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Et puis sur ses épaules, sur chacune des épaules, également une pierre sur laquelle étaient mentionnées 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre côté. Et nous avions souligné que le sacrificateur, eh bien, en s'approchant comme cela de Dieu, entrant dans le temple, portait sur ses épaules et sur son cœur le peuple pour lequel il venait déposer le sang qui avait été versé et qui servait de rançon. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses bien plus merveilleuses qui étaient réservées pour notre temps et qui sont notre partage aujourd'hui. Le tabernacle tel que je viens de le décrire n'existe plus. Mais Jésus est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, mais il a traversé le ciel et il est entré de nouveau après être venu pour accomplir le sacrifice qui nous permet de dire les uns et les autres que par sa grâce nous sommes sauvés. Il est entré dans le ciel et là, la Bible déclare, il intercède pour nous. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous incite à nous approcher de Dieu et d'entrer donc dans le lieu très saint. Pour nous, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous savez, mes frères et sœurs, le privilège que nous avons, c'est d'être au bénéfice d'un sacrifice qui est parfait. Parce que Jésus s'est offert par un esprit éternel. Et la Bible nous dit que le sang des boucs, le sang des taureaux ne pouvait pas être considéré comme sacrifice parfait. Et même les sacrificateurs qui étaient à l'œuvre de cette manière-là, eux-mêmes étant pleins de faiblesses, devaient offrir d'abord pour eux-mêmes des sacrifices. Et il fallait donc que quelqu'un vienne et accomplisse une œuvre parfaite, se livrant par un esprit éternel, et Jésus a donné sa vie en rançon pour nous. Il est mort à cause de nos péchés. Il est mort pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Ceci était élémentaire, et tout le monde, nous le comprenons. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification, et nous montrer aussi qu'il est le vainqueur de la mort. La mort, c'est la conséquence du péché. La Bible dit, l'âme qui pèche est celle qui mourra. Mais Christ ressuscité a prouvé qu'il a triomphé de la mort. Mais son œuvre n'était pas encore achevée. Il fallait donc qu'il soit enlevé, élevé dans le ciel, qu'il entre dans la gloire, pour présenter cette œuvre formidable qu'il a accomplie en notre faveur sur le mont Golgotha, et après avoir justement présenté cette œuvre formidable, alors le Saint-Esprit a pu être répandu sur l'Église qui était rassemblée le jour de la Pentecôte pour remplir ces êtres-là qui avaient cru. Pourquoi ? Parce que jusque-là, Jésus avait été avec eux. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, comme il leur avait d'ailleurs annoncé, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il a dit lui-même, c'est le Consolateur, un autre Consolateur. Et il prendra ce qui est en moi et il vous le révélera. Il vous l'enseignera. Et le travail du Saint-Esprit, c'est pour que nous ne soyons plus désormais comme des orphelins ici-bas sur la terre Et les disciples qui craignaient, au moment où Jésus, ayant tout accompli, annonçait qu'il allait rejoindre la gloire et son Père, eux craignaient cette sorte d'abandon en apparence. Et Jésus avait pourtant annoncé, « Mais vous ne serez pas comme des orphelins, je vous enverrai quelqu'un qui non seulement sera avec vous, comme, entre guillemets, j'ai pu être avec vous, mais il sera en vous. » Ce qui veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu entre dans un cœur et dans une vie, Jésus ne peut pas être plus présent avec nous et en nous que lorsqu'il était ici-bas sur la terre avec ses propres disciples. La réalité, c'est que Jésus, par l'Esprit de Dieu présent en nous, nous permet maintenant de jouir d'un ciel si beau, si parfait, et dans le fond, entrer dans le lieu très saint pour nous, ça veut dire entrer dans une telle communion avec Dieu le Père. Et cela est possible, pourquoi? Eh bien, parce que justement, dans l'Évangile, il est dit qu'à un moment donné, lorsque Jésus a offert sa vie sur la croix et qu'il a rendu son esprit au Père, il s'est passé quelque chose dans le temple. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint et qui empêchait aux sacrificateurs d'aller plus loin et d'entrer là où la présence de Dieu se manifestait sur le propitiatoire, ce rideau s'est déchiré, écoutez bien, du haut en bas. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas l'intervention d'une main humaine. Et personne ne pouvait déchirer ce rideau. Écoutez bien, un historien de l'époque, qui se nomme Joseph, et dont vous avez certainement entendu parler de lui, a dit que ce rideau pouvait avoir une épaisseur rapprochant de 10 cm. Vous voyez un petit peu l'épaisseur? Et pour déchirer ce rideau, il fallait vraiment l'intervention de la main de Dieu. Et quand Dieu, au moment où Christ a tout accompli pour nous, eh bien, a déchiré ce rideau, il voulait dire enfin à tous les êtres humains que par le moyen de la véritable foi, pas de cette foi qui est celle que possèdent les démons, qui croient en Dieu et qui même tremblent devant lui, mais la foi qui sauve, c'est-à-dire la foi en cette œuvre parfaite qui a été accomplie par Jésus et qui nous donne quoi? Pas seulement la justification, mais qui nous donne aussi la sanctification et en qui nous sommes aussi déjà glorifié, parce que nous sommes, par la grâce de Dieu, assis avec lui dans les lieux célestes. C'est bien ce que déclare la Bible, n'est-ce pas? Donc la foi saisit cela, et nous sommes donc entrés là. Et là, eh bien, comment doit se dérouler notre vie? Le drame aujourd'hui, c'est de voir des chrétiens qui confessent le nom de Jésus, professent connaître le Seigneur, et c'est une réalité, mais qui ont des moments de doute, des moments d'angoisse. Je ne parle pas des épreuves qu'ils peuvent traverser et qui peuvent susciter ces choses, et chacun d'entre nous, nous pouvons connaître cela, mais d'angoisse, parce qu'ils sont inquiets au sujet de leur âme, au sujet du salut, se posant des questions, parce que, ayant des défaillances, et qui n'a pas des défaillances, ayant des moments de chute, et qui ne connaît pas cela, des moments où précisément le malin nous a fait tomber dans un de ses pièges, commencent à douter et se disent, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais entre donc! Entre donc où? Eh bien, dans le lieu très saint. Parce que ton salut ne dépend pas de tes mérites, ne dépend pas de ce que tu fais, ne dépend pas de ce que tu es, mais dépend de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli, et ça, c'est une réalité glorieuse. Tout est accompli. Jésus a fait une œuvre qui est parfaite. Et nous avons donc un libre accès, nous entrons dans une communion réelle avec lui. La communion avec Dieu, ce n'est pas un instant le dimanche matin à l'heure du culte, ce n'est pas non plus un instant dans une autre réunion où nous sommes là quelques-uns rassemblés, soit pour louer, soit pour prier. La communion avec Dieu, c'est chaque instant de chaque jour de notre vie, où que nous soyons, Dieu est là et nous, nous sommes avec lui. Et quand nous avons évidemment cette intimité avec le Seigneur, alors lui déverse en nous par son esprit ce pouvoir qui nous permet d'être vainqueurs sur l'influence néfaste que nous pouvons recevoir de la part de ce monde. Quand voyez-vous maintenant, nous ne sommes plus appelés à marcher par nos sens, par ce que nous ressentons, mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Et dans un certain sens, ce que nous avons déjà entendu ce matin au sujet de Sarah devient une réalité. Elle avait du mal à comprendre cela. C'était tellement extraordinaire, cela nous a été rappelé simplement ce matin. Tellement extraordinaire, ce qui lui était annoncé, comme pour nous, c'est extraordinaire de savoir que nous pouvons vivre dans une relation tellement intime avec le Seigneur, que nous pouvons être plus que vainqueurs, jour après jour, quelles que soient les circonstances, la main dans la main, avec le Seigneur, triompher de toutes les choses négatives. Ça semble impossible. Et il nous paraît que cela ne peut pas être le partage d'être aussi faible que nous sommes dans la chair. Mais voyez-vous, j'affirme ce matin que c'est là le pouvoir qu'a le Saint-Esprit de nous élever au-dessus de nos propres limites afin que nous puissions le glorifier comme il est digne de l'être. D'ailleurs, je retourne maintenant à ce premier verset que nous avons lu dans l'évangile de Jean. Au moment où Jésus est ressuscité, et bien sûr, il y a là une femme, il y en a plusieurs, mais je vais m'attacher particulièrement à celle-ci, qui était dans la confusion, dans les larmes, dans la peine, dans la tristesse, comme si dans le fond, eh bien, tout était fini, alors que Jésus avait accompli quelque chose de formidable, pour lequel chose d'ailleurs, elle avait eu un comportement précédemment qui démontrait sa foi, vous vous souvenez? Quand finalement elle avait déversé ce qu'il y avait de plus cher sur le Seigneur et que Jésus avait défendu cette femme en disant « Mais elle a fait cela par avance pour le jour de ma sépulture. » Là maintenant, elle est complètement décontenancée. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment agir. Elle pleure. Et au moment où elle pleure, Jésus va lui adresser la parole et va lui dire en l'appelant par son nom « Marie ». Et elle se retourne, et encore avec les yeux embrumés à cause des larmes qui coulent, eh bien, elle va simplement dire « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Je vais laisser mon frère travailler. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, maintenant il me voit. Et cette femme-là, quand elle a vu le Seigneur, elle a eu une réaction qui est un peu identique à celle que nous pourrions avoir. Savez-vous comment? Elle a voulu attraper le Seigneur, se jeter à ses pieds. Vous voyez, maintenant pour elle, comprenez bien, là il s'agit de Marie, la maman aussi. Hein, et la maman, elle a voulu attraper les pieds du Seigneur. On peut comprendre. Que cette femme-là ne voulait pas perdre une deuxième fois, n'est-ce pas? Mais son fils. Et finalement, le Seigneur s'est retiré. Elle lui a dit, non, ne me touche pas. Écoutez bien, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit à cette femme, ne me touche pas? Pourquoi? Eh bien, simplement, parce qu'après la résurrection, il ne s'agit plus de marcher par nos sens, mais de marcher par la foi. Et il devait y avoir une œuvre qui devait être encore accomplie, c'est la raison pour laquelle il est dit, parce que je ne suis pas monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, il fallait qu'il aille pour que finalement soit, en quelque sorte, je mets ça entre guillemets, entériné l'œuvre qu'il avait faite ici-bas sur la terre et confirmé par quel moyen ? Par le don du Saint-Esprit, qui, parce qu'il est monté au ciel, a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu sur tous ceux qui croyaient le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, eh bien, ils ont reçu le Saint-Esprit, et ça, c'était une force pour marcher cette fois en vainqueur. Quand voyez-vous, nos impossibilités, elles doivent être placées aux pieds de Dieu dans une confession vraiment sincère. Nous réalisons que par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Et nous lui disons cela, mais au moment où nous lui plaçons notre faiblesse et l'abandonnons à ses pieds, alors il y a un échange formidable qui se fait. Il prend notre faiblesse et il nous communique sa force. Comme il a marché, nous pouvons marcher. Écoutez bien mes frères et sœurs, je ne pourrais pas comprendre l'ordre de la Bible qui dit « Dieu est saint, soyez saint. Dieu est parfait, soyez parfait. » Si c'était une impossibilité, alors je voudrais vous dire que nous ne comprendrions pas pourquoi Dieu donnerait un ordre que nous ne pourrions réaliser. C'est vrai que nous ne le pouvons pas par nos forces personnelles, mais nous le pouvons par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Paul a pu dire, dans une certaine circonstance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait quelque chose de formidable. Il place Christ sur le trône de notre cœur. Et c'est lui qui va maintenant régner. Quand nous vivons dans cette relation étroite, quand nous vivons dans cette communion avec Dieu, quand nous sommes là, liés à lui, il nous communique ce qui est nécessaire afin que nous soyons plus que vainqueurs dans notre marche ici-bas sur la terre. C'est la raison pour laquelle l'invitation est faite. Approchez-vous, mais comment ? Il est dit, approchez-vous avec un cœur sincère, c'est-à-dire avec un cœur vrai. Il est dit, dans la plénitude de la foi. Mais quelle foi ? La plénitude de la foi, ça me fait penser à cet autre verset de l'Écriture, qui dit que lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons nous examiner. Et il est dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que quand je m'approche de la table du Seigneur, je ne m'approche pas avec mes mérites personnels. Je m'approche comment ? En réalisant que si je suis digne de partager ce repas qu'il m'offre, c'est à cause de la grâce dont je suis le bénéficiaire. Et ça, c'est une chose très importante. Et quand je suis dans la foi qui saisit la grâce dont je suis le bénéficiaire, alors ma mauvaise conscience disparaît. Frère, il y a un écho ici qui me gêne, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vais continuer. Est-ce que vous me suivez quand même ? C'est un peu difficile, hein ? Mais on va y arriver. Donc, il y a cette foi qui nous délivre d'une mauvaise conscience. Parce que La mauvaise conscience, elle vient des accusations que nous pouvons ressentir au fond de nous-mêmes, parce que Satan ne fait que cela, il est l'accusateur des frères. Mais quand nous sommes dans la foi, dans la grâce de Christ, nous sommes délivrés de cette mauvaise conscience, et il est dit, le corps lavé d'une eau pure. Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien signifier cela? Quelqu'un pourrait me dire, ah frère, quand même, ce verset, est-ce que nous ne sommes pas dans une époque où chacun d'entre nous prend soin de son propre corps? Mais nous nous sommes lavés ce matin. Pas vrai que vous vous êtes lavés? Ben moi aussi. Hein. Mais oui, mais ça veut dire quelque chose de plus. Voyez, la parole de Dieu dit, ça a été souligné par une lecture ce matin, que nous sommes le temple du Seigneur. Et la Bible déclare que nous sommes la maison de Dieu. Comme Moïse a été fidèle sur sa maison, Christ l'est sur sa maison, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et sa maison, dit-il, c'est nous. Donc, nous sommes chacun pour notre propre part, et en même temps, tous ensemble, le temple du Saint-Esprit. Et notre corps, il est aussi tripartite. C'est-à-dire qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est là où l'Esprit de Dieu agit puissamment. C'est là, il contrôle notre esprit. Et c'est au plus profond de nous-mêmes. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Quand il y a le contrôle du Saint-Esprit à notre esprit, même nos sentiments aussi sont sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Mais nos corps doivent être lavés de cette eau pure. Vous savez, tout le contexte met en relief que cette eau pure, c'est la parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit dans nos vies. Et l'eau de la parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit en nous, nous lave au niveau de notre corps. Parce qu'avez-vous remarqué comment notre corps est souvent un instrument entre les mains de l'adversaire de notre âme, du diable? C'est par quel moyen que nous produisons l'impudicité? C'est par quel moyen que nous pouvons manifester une certaine violence? Il y a la violence des paroles, il y a la violence par nos actes, il y a dans le corps cette faculté, et tant que nous serons dans cette chair, qui est l'enveloppe qui, dans le fond, couvre l'homme nouveau qui est en nous, en Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous sentons tous cette lutte, tous ce combat, un peu comme Paul, quand il disait à un moment donné, « Misérable que je suis, en moi là, au plus profond de moi-même, je sais ce qu'est la loi de Dieu. » Et je sais qu'elle est bonne, je veux l'accomplir. Mais en même temps que je sens cela au fond de moi-même, là, au niveau de mes membres, il y a quelque chose qui est en contradiction et qui me pousse à faire le contraire de ce que je veux là, à l'intérieur de moi-même. C'est la raison pour laquelle, dans cette communion avec Dieu, quand nous sommes entrés en esprit, dans ce lieu très saint, en relation avec Dieu, Dieu communique par son esprit cette force et ce qui se passe à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Certains disent parfois, ben, il faut pas se fier aux apparences. Je regrette mes frères et sœurs, c'est vrai. Il faut pas se fier aux apparences, Dieu ne se fie pas aux apparences et il sait ce qui se passe dans notre cœur. Mais quand il y a une victoire à l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur. Vous savez, quand quelqu'un extérieurement a une conduite, un comportement qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est qu'en réalité, à l'intérieur, ça ne va pas non plus dans la relation avec Dieu. Ce que nous sommes avec Dieu, au fond de notre cœur, doit se traduire d'une manière visible à l'extérieur. Et c'est de cette manière-là que nous devons nous approcher de Dieu, le corps lavé d'une eau pure. c'est-à-dire en acceptant que chaque jour, dans cette relation avec Dieu, la parole de Dieu fasse son œuvre dans notre cœur. Évidemment, si nous ne lisons pas l'Écriture, si nous ne passons pas du temps dans cette relation avec Dieu, que nous nous contentons simplement des heures de réunion où nous sommes ensemble pour écouter le prédicateur qui nous apporte un message, c'est pas comme cela qu'on peut faire des progrès. C'est en nous nourrissant quotidiennement, en étant là dans la présence de Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu nous travailler, travailler profondément en nous pour que tout ce qui se passera en nous, eh bien, puisse devenir visible après à l'extérieur. Alors là, Dieu va être honoré et Dieu va être glorifié. Et que va-t-il se passer alors? C'est la suite du texte qui pose un peu question. Et je voudrais que vous soyez très attentifs ici. Il est dit au verset 25, plutôt déjà au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Vous savez, quand il y a une relation, je vais appeler horizontale avec Dieu, eh bien, ou plutôt verticale avec Dieu, bien, ça veut se traduire aussi par une relation horizontale avec nos frères et sœurs. Parce que l'amour de Dieu, est-il dit dans l'Écriture, est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Vous voyez, il y a un but. Et d'un coup, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ah, je m'arrête là. Parce que si vous saviez, mes chers frères et sœurs, l'utilisation qui a été faite par tellement de prédicateurs de ce verset, mal traduit, qui fait que certains prédicateurs ont commencé par affirmer, si vous quittez l'assemblée, la domination, la dénomination plutôt, qui souvent aussi est une domination, eh bien, vous allez être perdu. C'est comme cela, par exemple, que l'Église catholique a dit, en dehors de l'Église, elle entend bien, Église catholique, il n'y a pas de salut. Je vais vous dire, il y a une part de vérité en cela. Catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire universel. En dehors de l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Parce que pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Mais vous allez dire, mais il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Oui, c'est là un problème. Le traducteur ici a fait une erreur qui a eu de graves conséquences. Et il faut que nous sachions cela, parce que heureusement qu'il n'y a pas que Louis II, vous voyez, pour les traductions. Il y a d'autres traductions. Mais que dit le texte, en fait? Je suis obligé de vous ramener à quelque chose qui peut vous paraître fastidieux un peu, mais je vous prie de prêter attention. Le terme « assemblée » ou « église » en grec, dans le Nouveau Testament, se dit « ecclésia ». Et ce terme-là signifie « appeler hors d'eux ». Nous avons été appelés hors de ce monde pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais le terme ici qui est traduit « assemblée » n'est pas celui-là. « Ecclésia » se trouve dans plusieurs passages de la Bible. Mais le terme qui est utilisé ici se trouve aussi dans quelques versets que je vais vous citer, mais dans un sens tout à fait différent. Le terme, écoutez, ne me prenez pas pour un savant, j'ai des moyens de connaître certaines choses, parce que, hélas, ou plutôt heureusement, il y a des choses qui sont mises à notre disposition pour bien comprendre ce que dit la Bible. Et le terme grec, je ne connais pas le grec, mais il y a ici quelqu'un qui le connaît. Il pourra rendre compte si c'est vrai ou pas, c'est « episynagogé ». Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire notre rassemblement avec le Seigneur. Hein? Mais ce qui se trouve aussi ailleurs, ce verset et ce terme, oui, il se trouve par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 31, où il est dit, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront. » Voilà le même mot. « Episynagogé. » Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Encore un autre texte. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Paul s'adresse aux Thessaloniciens et il dit, « Pour ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, episynagogé, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. » Nous devons tirer une conclusion. Cette expression, elle veut dire quoi? Notre rassemblement avec Dieu, qu'est-ce qui est arrivé aux Hébreux? Ils étaient en train de se refroidir au niveau de la foi, qu'ils perdaient cette vision du prochain rassemblement qui nous attend les uns et les autres, notre rassemblement avec le Seigneur. Jésus vient bientôt. Des frères et des sœurs disaient, citaient dans leur prière ce matin, « Maranatha, Jésus vient bientôt. » Il vient bientôt. Mais quand on perd cette espérance-là, alors que se passe-t-il? Si on abandonne cette expérience-là, alors comme c'est la coutume de quelques-uns, il faut que nous nous exhortions réciproquement, et cela d'autant plus, regardez ce qui suit, que vous voyez s'approcher le jour. Donc de quoi il parle? De jour là où nous allons être rassemblés avec le Seigneur. Mais vous avez certains pasteurs, président général de l'association culturelle, qui disent, mais si vous quittez l'assemblée, eh bien, vous êtes des rétrogrades. C'est fini, vous êtes perdus. Je regrette mes frères et sœurs. Je voudrais bien vous poser une question. La plupart d'entre nous, nous avons quitté certaines assemblées. N'est-ce pas vrai? Vous avez quitté, pour certains, peut-être la majorité, l'Église catholique. Il y en a d'autres qui ont quitté l'Église baptiste ou qui ont quitté l'Église protestante. Est-ce que pour autant, nous sommes perdus? Et dites-moi, si le verset là signifiait l'Église, ça voudrait dire les ADD, ou ça voudrait dire l'Église biblique, ou ça voudrait dire l'Assemblée biblique, ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire n'abandonnons pas l'espérance que nous avons du grand rassemblement. Parce que si nous abandonnons cela, que va-t-il arriver, mes frères et sœurs? Eh bien, il va arriver que dans le refroidissement de la foi, eh bien, nous risquons de nous trouver en danger parce que le diable va profiter de cette occasion-là pour nous éloigner toujours plus de notre vraie relation avec Dieu. Je profite de l'occasion pour vous dire, certains ont quitté l'assemblée ici. Certains peuvent très bien avoir quitté l'assemblée et reste en communion avec Dieu. Et loin de nous la pensée de croire que pour autant ils sont perdus. Nous avons besoin de comprendre cela. Et moi j'aimerais insister ce matin pour vous dire ce qui est très important. C'est que nous gardions cette espérance au fond de notre cœur, que nous pensions qu'un jour il y aura un grand rassemblement, et que ça vous plaise ou pas. Mes frères et sœurs dans le ciel, il n'y aura pas un petit coin réservé pour nous, vous savez. Vous l'avez pensé, vous? Ah. Ah, qu'une place? Ah oui. Heureusement qu'il reste beaucoup de place pour tous ceux qui croient. Hein? Et nous devons bien avoir cette pensée-là, cette vision-là. Alors ça va faire quoi? Ça va nous amener à exhorter. Moi, je peux comprendre la raison pour laquelle Paul lui-même, dans un autre passage, dira, eh bien, sortez du milieu d'eux. Et il utilise un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, si je ne me trompe, c'est au chapitre 52 et au verset 11, il est dit justement, sortez du milieu d'eux, éloignez-vous du milieu d'eux. Mais quand il dit cela, et que Paul reprend cela, eh bien, il veut dire quoi? Éloignez-vous du péché, éloignez-vous du mal, éloignez-vous de ce qui est contraire à la volonté de Dieu, éloignez-vous de ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Pourquoi? Pour nous attacher au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vient bientôt et il faut que nous soyons prêts. Et c'est là, et je vais terminer dans un instant, qu'il y a un solennel avertissement qui préoccupe beaucoup de personnes. Et je dois reconnaître que certains, même ici, m'ont posé la question en disant « Mais est-ce que nous ne risquons pas d'avoir commis le péché qui ne peut pas être pardonné ? Comment peut-on le savoir, cela ?» Mais qu'est-ce que c'est que le péché ? La Bible dit que le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et celui qui cite cela, il reprend et il dit « de péché parce qu'il ne croit pas en Jésus ». Le péché, c'est ça. Et ça, c'est ce qui est grave. Et ça, c'est ce qui ne peut pas être pardonné. Savez-vous pourquoi? Parce que si l'on reste comme ça, dans cette position-là, rejetant la seule œuvre qui nous permet d'être établis dans une relation étroite avec Dieu, si on rejette cela, qu'est-ce qui nous reste comme espérance? Rien. On ne peut pas. Et si quelqu'un reste dans cette position jusqu'à son dernier souffle, il ne peut pas être pardonné. Et la Bible dit, c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est bien précisé. Celui qui ne croit pas, il méprise, il foule aux pieds le sang de l'alliance par lequel nous sommes sanctifiés. Et celui qui fait cela ne peut pas être pardonné. Et il est dit d'ailleurs, si du temps de la loi de Moïse, on mourait sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins, à plus forte raison, celui qui méprise le sang de Jésus. Et ça devrait nous émouvoir à un tel point que nous devrions penser à tous ceux qui se trouvent dans cette position et qui rejettent, qui restent dans cette position de rejeter la grâce de Dieu. Ça devrait nous émouvoir au point de prier vraiment pour eux, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un déclic. J'ai lu d'ailleurs un témoignage à ce sujet, je l'ai même lu ce matin, vous voyez, de bonne heure, alors que j'étais dans mon bureau méditant la parole du Seigneur, un témoignage est aussi venu à ma connaissance. Et c'est le témoignage d'un personnage qui a vécu 100 ans plus 3 mois. Et il avait un ami du même âge, mais qui lui connaissait le Seigneur. Et cet ami était parti rejoindre son Seigneur quelques mois au préalable, mais pendant toute sa vie, cet ami qui avait approximativement le même âge que lui, ne cessait de lui parler de la grâce de Dieu, de lui parler du sang de Jésus. Et lui l'a rejeté. Il l'a rejeté jusqu'à ce que son ami disparaisse. Et le serviteur de Dieu de cette époque, quand il a appris que ce vieillard chrétien a été allé rejoindre son Dieu, il est allé trouver cet ami-là qui était visité par ce chrétien et lui a dit « Je viens encore continuer le travail de mon frère dans la foi qui vous a rendu témoignage de la grâce de Christ. » Au moment où il est parlé de cela, Il avait déjà dépassé les 100 ans. Mais quand il a entendu cela, eh bien, il y a eu un sourire sur ses lèvres. Et il lui a dit, « Pasteur, dès que mon ami est parti, j'ai réalisé la grâce de Dieu et combien Dieu a été patient à mon égard. » Il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Et il a dit, « Maintenant, je sais que Christ a payé pour moi. Je suis sauvé. » Celui qui lui avait rendu témoignage n'a pas vu cela. Ça veut dire qu'il nous faut être persévérants, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime au point d'avoir donné sa vie pour eux. Et là, c'est un avertissement pour ceux qui ferment le cœur à la grâce. Ils doivent savoir que s'ils restent comme ça jusqu'à la fin, il n'y a pas de possibilité de pardon, il n'y a pas de possibilité de salut. Mais pour nous, qui connaissons cette grâce et qui bénéficions de cette relation avec Dieu, réjouissons-nous et louons le Seigneur parce qu'il a tout accompli pour nous. Quel privilège et quelle bénédiction. Nous allons prier le Seigneur.